session d'introduction à la théologie. Un riment par le père Philippe, le 5 octobre 1992, premier cours.
Nous allons continuer cet effort d'intelligence, mais avec le cœur, l'amour de la vérité, d'essayer de comprendre ce que doit être la théologie dans l'Église. Alors, si vous avez le temps, sachez au moins que ça existe. Dans le dictionnaire de théologie catholique, l'article du Père Congar sur la théologie, qui montre les diverses modalités de la théologie à travers le temps. C'est intéressant. Évidemment, il y a un danger, comme toujours, c'est qu'à partir de là, on se met à relativiser. Alors, on arrive à ce concept très particulier du pluralisme théologique. Vous arrivez à voir est-ce que ce concept du pluralisme théologique est une chose juste ou pas. C'est comme si vous demandez, il y a un pluralisme métaphysique. Est-ce qu'il y a un pluralisme métaphysique? Il y a des philosophies qui sont plus ou moins vraies. Ça ne fait pas le pluralisme. Il y a des théologies qui sont plus ou moins vraies. Ça ne fait pas le pluralisme. Ce que vous dites qu'il y a de plus ou moins vrai, la seule théologie vraie, c'est la seule théologie intéressante, celle qui cherche la vérité. Celle qui applique des erreurs, ça ne fait pas un pluralisme. Ça fait des à côté, c'est tout. Ça fait des microbes qu'on a escorté. Des parasites. Parasites cartésiens, le parasite conscient, le parasite hegélien, le parasite qui est gros, 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 qui risque de tenir un cancer. Est-ce que c'est aussi les différents hommes parce qu'ils sont des maladies différentes? Non. C'est une chose très intéressante à étudier, ça. Il faut avoir un petit secteur pluraliste ou une fiche. Essayez de comprendre ce que ça veut dire, le pluralisme, parce que c'est une des questions sûrement auxquelles vous vous trouverez. On dira, je sais pas, on n'a jamais parlé. On vous en a parlé. Vous n'avez rien compris. Et c'est une question très délicate. Y a-t-il un pluralisme entre la théologie des orthodoxes, la théologie latine, la théologie et luthérienne et la théologie catholique? Ou est-ce que vous devez dire la théologie luthérienne n'est pas juste? Mais toutes ces questions-là qui sont très très... C'est pas directement la question qu'on traite, hein, mais qui font partie de votre manière de regarder ce que c'est que la théologie. Autrement, vous tomberez dans le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le pluralisme? Puisque c'est un des termes très employés aujourd'hui. Je réponds aux questions, non pas au pluralisme. Et je voulais simplement vous dire qu'il fallait qu'il y ait là, pour vous, une question intéressante et que vous ayez un tout petit peu votre conception là-dessus. Autant possible, juste et vrai. Peut-on dire que la théologie est science, connaissance par les causes? Elle n'est pas science, elle est science subalternée. Hein? Et souligner 4 fois subalternée, parce que toute l'erreur des modernes, de beaucoup de modernes, c'est de considérer justement ne l'est pas. La science subalterne parce qu'elle repose sur la foi. Et qu'on reposant sur la foi, elle n'a pas l'évidence de ses principes. Or, le propre de la science subalternée, c'est de ne pas avoir l'évidence de ses principes, et c'est de faire appel à une autre science qui a l'évidence de ses principes. Le concept de science subalternée est un concept aristotélicien. Je dis concept dans le sens moderne, vous comprenez. En réalité, il faudrait dire ce que représente la définition de la science subalternée vient d'Aristote. Et saint Thomas l'a repris à Aristote. Donc aujourd'hui, si vous parlez de science subalternée, faites attention. Ça n'a de signification que dans une perspective aristotélicienne. Dans une perspective hegélienne, pouvons-nous parler de science subalternée? Qu'est-ce qu'il peut dire là-dessus? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Si vous faites dans le coup que je fais ça, allez.
Merci. Dans l'église, l'hégélianisme n'est pas la méthode qui est.
Oui, mais je vous pose la question, vous dites oui ou non?
Elle n'est pas tout à fait.
Quoi ?
Elle n'est pas subalternée.
Donc il n'y a pas de science subalternée pour Hegel. Et la théologie ne peut pas être science subalternée pour Hegel. Pourquoi ? Parce que la raison, progressivement, la dialectique rationnelle, progressivement, enlève toute l'obscurité de la foi. C'est la dialectique rationnelle qui, petit à petit, supprime la foi, donc il n'y a plus de subalternation. Toute la subalternation repose sur les principes donnés par la foi.
Justement, c'est pas parce que chez Hegel, il n'y a pas de principe évident en lui-même, mais le seul principe, c'est un principe critique de.
Chez Hegel, il y a la dialectique.
Oui.
Puis,
il n'y a pas de principe connu évident.
Il n'y a pas de principe au sens où nous l'entendons.
Oui.
Mais il y a. Vous voyez, la science se définit par une connaissance nécessaire. C'est ça la science, une connaissance nécessaire. Vous voyez, alors, il y a chez Hegel une connaissance nécessaire, donnée par la dialectique et non pas par les principes. Donc quand vous dites science, connaissance par les causes, ça c'est aristotélicien, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous prenez d'une façon commune, au-delà de l'aristotélisme, on dira que la science est une connaissance nécessaire. D'où vient cette nécessité? Qu'est-ce qui engendre cette nécessité en moi? C'est là qu'on a la diversité. Car elle cherche à expliciter ses principes qui lui viennent de la foi, de la révélation, en utilisant des connaissances philosophiques. Donc, elle s'appuie sur la foi, sur la révélation, qui est une connaissance obscure, non évidente. Et elle essaie d'expliciter ses propositions de foi. Donc, à la différence de la philosophie, les principes sont donnés et on cherche à les expliciter et non pas à les découvrir. Puis, à la différence de la philosophie, les principes sont donnés dans l'obscurité, dans la non-évidence. Donc ils sont donnés grâce à l'adhésion de foi qui provient de la volonté. Donc, subalterné à la science des saints. Et par le fait même, c'est une connaissance scientifique très particulière et très imparfaite. Parce que je n'ai pas l'évidence des principes. A fortiori, je n'ai pas l'évidence des conclusions. Alors, sur quoi repose la nécessité en théologie? C'est ça qui est intéressant à préciser. question, d'où vient la nécessité en théologie? Les vieux théologiens, vous n'êtes pas posé la question. C'est ça, parce que c'est pas, si je le dis, vous ne le retiendrez pas. Je fais comme Socrate. C'est vous qui devez dire, mais oui, c'est vrai, on avait l'intelligence. Mais si j'avais posé la question de la nécessité, elle tombait du ciel, la nécessité. D'où vient la nécessité en philosophie, en théologie?
Vous avez dit la semaine dernière que la première nécessité, c'était pour répondre aux objections.
Que?
Répondre aux objections.
Ah non, pas du tout, ça c'est second. Vous voyez, que la réponse aux objections ait été pour la nécessité de poser une philosophie, mais si je demande la nécessité en théologie, vous voyez, qui fait que cette connaissance est une connaissance scientifique nécessaire.
De la certitude que donne la foi.
Mais est-ce que c'est la même certitude en science théologique à la fois? La certitude de la foi est une certitude qui vient directement de la foi. Et la certitude en théologie, la nécessité en théologie qui implique une coopération de l'intelligence et de la foi.
Parce qu'il y a une analogie propre.
Ça, parce que...
Il y a une analogie propre.
Ah, alors précisez un peu.
C'est que la théologie emploie un...
Oui, je prends comme je vous avais dit, la première conclusion théologique dans la somme théologique de saint Thomas, c'est Dieu est omnino, simplex. Voilà la première conclusion théologique. Il y a une nécessité ici. L'attribution tout à fait simple est quelque chose qui est attribué à Dieu selon un mode de nécessité. D'où vient cette nécessité? Vous touchez quelque chose de juste, je voudrais que vous précisiez un peu plus. Voyez, montrez-moi dans cette conclusion, Dieu est tout à fait simple. Montrez-moi d'où jaillit cette nécessité.
Ça vient des quatre autour, non?
Des quoi? Montrez.
Dieu par essence est simple.
Quoi?
Dieu par essence est simple.
Est-ce que vous connaissez l'essence de Dieu?
Mais c'est quand même une sorte de propriété. Je peux dire une propriété.
Mais vous ne connaissez pas l'essence de Dieu. Si vous ne connaissez pas l'essence de Dieu, mais comment voulez-vous affirmer que c'est une conclusion de... Quoi?
Je peux dire qu'il n'est pas composé.
Il n'est pas composé. Alors précisez, montrez comment on arrive à cette conclusion de nécessité. Je ne connais pas l'essence de Dieu.
Par mode de négation.
Mais Dieu, j'y adhère dans la foi. Qu'est-ce qui est au-delà de la foi? C'est l'omnino simplex. C'est pas la foi qui me dit ça, parce que chercher dans l'écriture, il n'est jamais dit que Dieu est absolument simple. Donc, c'est pas une donnée de foi immédiate. Si c'était une donnée de foi immédiate, si je disais Dieu est parfait, Dieu est saint, ça c'est dit. Donc, j'y crois. Tandis que omnino simplex, c'est pas dit directement dans la révélation. Alors montrez-moi ce lien de nécessité entre le sujet, Dieu, dont je ne connais pas l'essence, et omnino simplex. Mais c'est pour que nous précisions nous-mêmes quelle est la structure de la connaissance scientifique de la théologie. Ce que vous dites, vous touchez, j'aimerais que ce soit un peu plus précis.
C'est à partir du jugement.
À partir du jugement. Alors, oui, toujours, la science est dans le jugement.
Et donc,
ceci est une proposition, n'est-ce pas ? Donc c'est une proposition, c'est le fruit d'un jugement. C'est le lien entre le sujet et l'attribution. Il y a un lien nécessaire qui n'est pas immédiat. Et c'est pour ça qu'il est scientifique. Si, quand je dis par exemple, Dieu existe. Est-ce que Dieu existe est une conclusion scientifique ? Pour le métaphysicien, oui. Pour le croyant, non. Ça fait partie directement de ma foi. Donc c'est pas au sens strict une conclusion scientifique de théologie. Dieu existe. C'est impliqué dans la foi. Tandis que Dieu est tout à fait simple, c'est la première conclusion scientifique. Alors, une proposition qui est un principe. Donc, Dieu est saint, Dieu existe. Ce n'est pas une conclusion théologique. Tandis que Dieu est tout à fait simple, c'est une conclusion théologique. Quelle différence y a-t-il entre les deux ?
C'est une explicitation.
Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est une explicitation.
C'est-à-dire oui, que tout à fait. C'est une explicitation par rapport à Dieu. Qui... Alors
la nécessité, en fait, elle vient de nous, de notre intelligence qui a besoin de... Du côté de la science. Que...
Alors c'est subjectif.
Mais non, parce que on a besoin d'approfondir.
Oui, je vois ce que vous voulez dire. Elle vient de l'usage que nous faisons de la philosophie. Mais la philosophie est objective. Moi, je ne dis pas que la philosophie, elle vient de moi. La philosophie, elle vient de la réalité. Et je découvre ma philosophie dans la réalité. À partir de ce qui est.
Oui, non, quand je dis que ça, c'est une nécessité de
la soif, bien
maintenant.
Je sais bien, c'est ça que vous voulez dire, mais je corrige parce que c'est pas tout à fait juste comme expression. Vous voyez ? Alors, montrez-moi, quand Dieu est tout à fait simple, quel est le métaxu ? Puisque toute connaissance scientifique a un métaxu. Un intermédiaire qui permet de joindre la tribu au sujet. Quel est ce métaxu ? Si vous connaissez un peu l'article de saint Thomas, vous l'avez quand même lu. Cette question 3 de saint Thomas. Il faut que tout le monde ait lu cette question 3. C'est le début, c'est comme Petit Jean. C'est le début qu'on connaît mieux. Et donc on doit connaître au moins en théologien. Et ça vaut la peine. Connaître cette question 3 de saint Thomas, c'est la première chose qu'on doit faire. Et réfléchir, dire, quel est le métaxu ? Vous voyez, alors vous vous rappelez à ce moment-là ce que saint Thomas apprend, la méthode de Denis. On connaît Dieu, mais causalitatem. Père négationem. Père éminentiel. Le per causalitatem, connaissance métaphysique. Donc, c'est pas celui-là. Il est présent, c'est pas celui-là qui va expliquer la connaissance théologique. La connaissance scientifique théologique. Le per négationem, peut-il être suffisant pour une conclusion théologique ? Pour une conclusion scientifique. Non. La négation, la connaissance scientifique est toujours une connaissance positive et non pas négative. Dire Dieu n'a pas de corps, est-ce que c'est une conclusion scientifique ? Dans votre... Qu'est-ce que vous ressentez ? Dieu n'a pas de corps, Est-ce que c'est une conclusion scientifique ?
Oui, mais d'une manière imparfaite.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Oui, mais d'une manière imparfaite.
C'est pas une conclusion scientifique. C'est négatif.
Mais c'est quand même nécessaire que Dieu n'ait pas de corps.
Mais c'est nécessaire, d'accord ? Mais c'est négatif, donc ça ne dit rien du sujet. Une connaissance scientifique dit quelque chose du sujet que vous traitez. Écarté.
Même... C'est quand même quelque chose. C'est mieux de dire que Dieu n'a pas de corps que de dire que...
Que de rien dire. Mais c'est sûr, mais c'est pas à cause de ça que c'est scientifique. Scientifique implique une attribution positive à un sujet. Oui. Donc il y a une assiette qui est nécessaire. La pure négation n'est pas une connaissance scientifique, comme vous prenez une thèse. Hein, puisqu'une thèse peut être scientifique. Vous aboutiriez à une négation pure, dire lui que c'est très bien, c'est très juste ce que vous dites, mais c'est pas scientifique. C'est pas suffisant, ce que vous dites imparfait. Prenez, je dirais, c'est même pas connaissance scientifique pour moi. C'est connaissance scientifique et quelque chose de positif. Alors, il y a le père, c'est pour ça que pour avoir une connaissance scientifique, il faut les trois. S'il n'y a pas les trois, il n'y a pas de connaissance scientifique. Alors, la négation est nécessaire constamment. Ça, je suis tout à fait d'accord. Elle est nécessaire. Mais c'est comme une condition sine qua non. C'est nécessaire qu'il y ait ça. Et ce péréminencier, alors, comment arriver à ce péréminencier, voilà.
Oui. Est-ce que c'est pas par la métaphysique de l'acte que Dieu est en acte pur?
Oui, sûrement que c'est la métaphysique de l'acte. Alors, peut-être préciser un peu, c'est très...
Bah, comme acte pur, il n'implique aucune composition, aucune division,
oui.
Aucune puissance, et donc
oui, mais...
il ne peut pas être divisé.
Donc c'est encore négatif.
Oui, mais la conclusion est positive.
Mais la conclusion est positive, elle dit non, c'est Plex.
C'est la saisie de la ratio analogique de l'essai.
La
raison d'être, on saisit analogiquement, et qui nous permet de remonter.
Oui, je crois pas que c'est au sens strict l'acte. C'est beaucoup plus sa substance. Mm-hmm. Oui, Dieu, puisqu'il existe, implique une détermination. Une détermination qui n'est pas ceci. Et une détermination qui fait que Dieu est absolument simple, parce que en lui, il n'y a pas d'accident. Et donc, c'est sa détermination simple, la détermination première, qui est la seule chose qu'on peut dire de lui. Donc, absolument simple. Vous voyez, c'est le côté de la substance. C'est le côté de la forme, en quelque sorte, mais au-delà de la forme qui est relative à la matière. C'est donc la substance. Puisque la forme non relative à la matière, c'est la substance. Et donc, quand je dis Dieu est absolument simple, c'est l'ipsum esse subsistens. Ah, vous voyez que c'est pas si commode. Hein. Vous voyez là la complexité de cette connaissance scientifique. Puisque la première conclusion implique toute une série de négations. Et implique ensuite l'usage d'une pensée métaphysique sur la substance, et même une critique sur la substance. La dite tout être en tant qu'il est implique une détermination substantielle. Dieu est l'ipsum esse subsistens. Alors vous voyez, quand vous dites Dieu est l'ipsum esse subsistens, vous prenez l'essai. Donc c'est l'acte. Et quand Dieu est tout à fait simple, vous servez de l'acte, sous ce point de vue-là, c'est juste ce que vous dites, vous servez de l'essai, subsistance.
C'est,
vous voyez,
c'est l'aspect de la substance que l'on regarde dans l'acte.
Voilà, exactement. Vous voyez, alors c'est intéressant, parce que quand vous êtes en face, faites vous-même, en lisant la question 3, parce qu'il faut tous avoir lu la question 3 dès qu'on est en théologie, hein, petit Jean, c'est le début qu'on connaît le mieux. Il faut connaître la question 3. Et puis elle est très importante puisque elle fonde la connaissance scientifique. Il n'y aurait que cette conclusion-là. On pourrait dire la théologie existe. Alors, je relis la question demandée. Donc, à la différence de la philosophie, les principes sont donnés et on cherche à les expliciter. C'est très vrai. Et ceci montre tout simplement la diversité et ne dit pas la structure de la pensée théologique. La structure de la pensée théologique implique l'existé qui m'est donné dans la foi, implique les négations. Puisque tout ce que j'expérimente et que j'ai étudié en philosophie, toute espèce de réalité que je saisis doit être niée à l'égard de Dieu. Et ensuite, j'extrais la voie d'éminence qui me permet d'expliciter par rapport à Dieu un attribut positif.
Est-ce qu'il y a un lien entre le Per Modum Eminentiae et ce qu'on appelle la convenance? Et puis, est-ce que c'est pas par là que la connaissance scientifique rejoint la connaissance de sagesse, enfin, la sagesse?
Je crois que la convenance est le point de vue de la sagesse, hein. Tandis que la voie d'éminence est directement la saisie de ce qu'est Dieu. C'est beaucoup plus qu'une convenance. Vous n'allez pas me dire que Dieu est tout à fait simple, c'est une voie de convenance. La convenance, c'est quand je n'ai pas de nécessité. Vous voyez? Et c'est une question de sagesse, alors, c'est plus une science. La théologie est science et elle est sagesse. Et donc, elle va assumer des connaissances rigoureusement scientifiques nécessaires. Et elle va, de fait, se servir de voie de convenance. C'est la sagesse. C'est beaucoup moins rigoureux, mais c'est beaucoup plus intéressant. C'est parce que c'est une vision de sagesse, donc de contemplation par rapport à la... C'est pour ça que je vous dis, il faut toujours bien distinguer les articles où de fait on touche quelque chose de la convenance. Et constamment on voit ça. Saint Thomas précisera, et je le dis tout de suite ici, que comme toute la théologie repose sur la foi, et que je ne connais pas le quid de Dieu, ce qu'est Dieu, toute la théologie va regarder le quomodo, le comment, à l'égard de Dieu. C'est une connaissance, c'est pour ça que c'est une connaissance subalternée, c'est une connaissance du comment. Et saint Thomas dira même, donc le quomodo, le comment, en se servant de la négation. La négation joue un rôle capital en théologie scientifique, essentiel, écarter toutes les confusions possibles. Mais quand même, grâce à la voie d'éminence, je peux affirmer quelque chose de positif. Oui, tout ce que de positif que j'affirme en théologie et par terme de l'éminentiel, puisque c'est de l'ordre divin. Même la grâce. La grâce, je ne sais pas ce qu'est la grâce. C'est un mystère. Mais je peux préciser le comment de la grâce. Je ne sais pas ce qu'est la foi. Mais je précise le comment de la foi. Par voie négative et par voie d'éminence. Et l'éminence implique, alors c'est ce qu'on disait, une analogie. Alors il faut bien préciser laquelle. Oui. Et donc quand je prends pour la question de la simplicité de Dieu, quelle est l'analogie? C'est l'analogie de la substance. Oui. Puisque le problème de la substance, c'est de subsister. Alors, y a-t-il encore une question là-dessus? Oui.
Le
Permodum causalitatis intervient.
Le permodum éminentiae.
Non, causalitatis.
Il est fondamental.
Il intervient à quel
C'est le nom. Il est toujours présent. Parce que la foi implique un jugement d'existence. Oui. Et c'est ce jugement d'existence, je sais que je l'ai atteint par mode de causalité. C'est l'envoi. Comment, vous voyez, que la foi ne supprime pas tout point de vue philosophique. Pour Denis. Parce que c'est le point de vue théologique. C'est pas directement la foi que je définis en disant que je connais Dieu per modum, causalitatis per modum, negationis per modum, éminentiae. Ça, il faut le savoir. Hein, c'est traditionnel. C'est Denis le premier qui a dit ça. Saint Thomas s'en sert explicitement dans le Contrat Gentilès, dans le Commentaire des Sentences et dans le Contrat Gentilès. Dans la somme, il ne cite plus, mais c'est présent. Toute la structure de la connaissance scientifique implique la causalité, implique la négation, implique la voie d'éminence. Alors, il y a une querelle parmi les thomistes, les deux écoles. Le père Sertilange, mais à la suite de reste beaucoup, tu vois, Capriolus, entre autres, ça, ça ne vous intéresse pas directement, c'est toute l'histoire de la scolastique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que le père Sertilange, c'est intéressant, c'est de voir l'ordre 1, 2, 3. Personnellement, je mets cet ordre aussi. 1, 2, 3. Alors faites votre choix. Je dis ça, c'est parce que si ça se termine par la négation, on n'est plus en face d'une connaissance scientifique. Or, ça devra conclure quand même, Dieu est tout à fait simple. C'est pas négatif, ça. Ça implique des négations. La négation de tout ce qui est composé. C'est sûr. On s'appuie là-dessus. Ça implique cette négation-là. Mais Dieu est tout à fait simple. C'est quand même positif. Je pense qu'il faut avoir l'esprit tordu pour dire que Dieu est tout à fait simple, que c'est négatif. Ça implique la négation, mais c'est positif. Quand vous dites Dieu est perfectissimum, vous voyez, ça qui est très intéressant, c'est la manière dont la foi d'éminence apparaît. Dieu, faites le relever vous-même, c'est très facile à faire. Hein. Dans tous les attributs divins, voir la différence. Dieu est perfectissimum. Et Dieu est summum bonum. C'est quand même curieux. Hein. Ces trois manières d'affirmer l'éminence. Alors ça, c'est une chose extrêmement intéressante de voir pourquoi. Et quand il s'agit d'infini, Dieu est infini. On ne dit pas omnino infinitum. Dieu est tout à fait infini.
C'est négatif, ça.
Quoi ?
C'est négatif, ça.
C'est négatif. C'est pour ça qu'il n'y a plus, évidemment. Mais c'est pas premier. Alors, c'est à ce point de vue-là, c'est ça qui serait très intéressant à bien pour comprendre ça d'abord, c'est que c'est une simplicité, perfection, ce mot, et puis Dieu est infini. Et saint Thomas est le premier à mettre l'infini comme attribut. Il peut le faire. Pourquoi ? Parce que l'infini va reposer sur la simplicité. Donc dans l'infini, il y aura quelque chose de positif. Il le dit textuellement. Quand il dit un infini privatif, alors ce n'est pas une conclusion scientifique. Mais il y a un infini qui est la négation de toute limite. qui est reçu et donc qui explique quelque chose de positif. Vous voyez, le langage est négatif, mais la signification est positive. Lisez l'article sur l'infini, vous verrez ça tout de suite. Alors, ce qui est très curieux, c'est que Saint Thomas est le premier donc à avoir dit Dieu est infini. À partir de Don Scott, l'infini devient le premier attribut. De Don Scott à Descartes. De Descartes à Hegel. L'infini est devenu le premier attribut de Dieu. Alors voyez comme c'est curieux. Saint Thomas le premier. Avant Saint Thomas, on disait Dieu est infiniment sage. Dieu est infiniment savant. Vous voyez, l'infini qualifiait un autre attribut. Saint Thomas, en théologie scientifique, a eu ce courage intellectuel ou cette force intellectuelle de mettre l'infini comme quatrième conclusion scientifique. Et comme quatrième conclusion scientifique, il met l'infini. Donc, l'infini devient positif. Exprime quelque chose de positif en Dieu. Il n'y a pas de limite. Oui. Et cet infini implique la simplicité. C'est la conclusion de la simplicité. C'est pour ça que c'est quelque chose de positif. Tandis que Don Scott mettra l'infini comme premier attribut de Dieu. Et après Don Scott, Descartes, Hegel. Alors, on va dire, Saint Thomas a été l'occasion de tout cela, puisque c'est le premier qui a mis l'infini comme ça dans une telle lumière. Et la différence, c'est que pour Saint Thomas, l'infini n'est pas premier. L'infini présuppose la simplicité. Donc, présuppose la détermination. Parce que quand on dit omnino simplex, ça implique une détermination.
C'est ça que tu appelles l'infini privat. C'est quelle sorte d'infini? Comment il le définit? Qui a l'infini privatif?
L'infini privatif et l'infini négatif.
Oui. C'est un infini privatif.
Négatif. Négatif. Et pas privatif. Parce que c'était privatif, cet infini-là, vous voyez, ne qualifierait pas Dieu. Et Saint Thomas peut le dire grâce à la simplicité. Donc vous voyez, celui qui veut comprendre un tout petit peu la théologie scientifique de Saint Thomas, qu'il regarde les quatre premiers attributs de Dieu. Parce que c'est là où l'aspect connaissance scientifique subalternée est le plus explicite. Et c'est le commencement. Il faudrait commencer la théologie scientifique par ça. Comme dit Saint Thomas, celui qui veut comprendre ce que c'est que la connaissance scientifique, alors là, il saisit bien comment Saint Thomas assume les rationes de la sagesse philosophique, de la critique.
Ce que je comprends pas bien, c'est que pour les causes, le jugement d'existence se perd dans la mémoire. Pour le mode éminent, vous savez d'une conclusion métaphysique. On dirait que vous avez un premier regard qui est un regard théologique qui se conclut dans la foi, qui est pour point de départ la foi, et que le mode éminent s'opère dans un regard philosophique métaphysique.
Non, faites attention. La connaissance scientifique a son unité, qui n'est pas la connaissance de foi au sens strict qui présuppose la foi, voyez, mais qui n'est pas la connaissance de foi. Voyez, donc, qu'est-ce qui caractérise la connaissance scientifique théologique? C'est ça que j'essaie de comprendre. Voyez, donc je suis dans une attitude critique ici avec vous.
Et l'existence de Dieu, oui, quand même votre point de départ pour la théologie est donné dans la foi.
L'existence de Dieu est le point de départ dans la théologie, il est donné dans la foi. Mais s'il existe au point de vue philosophique, il faut qu'on puisse le découvrir au point de vue philosophique. C'est mieux. C'est même nécessaire pour en faire une théologie scientifique. C'est pour ça que Saint Thomas commence par montrer comment l'intelligence humaine peut atteindre l'existence de Dieu. Vous voyez ? Si je n'ai pas le permodum causalitatis découvert par mon intelligence, il y aura d'immenses inconvénients par rapport au permodum negationis et permodum illuminatiis. Et je crois que la connaissance scientifique, théologique, ne peut pas exister. Oui. Mais il m'est donné dans la foi et par la philosophie, par la métaphysique. La métaphysique ne supprime pas le permodum eminentiae de la théologie de la foi, mais précise dans la foi un permodum causalitatis qui est celui du Créateur, de laisser participer. Mais...
Je n'ai pas bien compris le lien de nécessité qu'il y a entre Dieu et absolument simple.
Bon, alors, je reprends le raisonnement de Saint Thomas. Donc, Dieu est l'être premier. Parce qu'il est premier, il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, il ne peut pas y avoir de potentialité en lui. Or, toute composition implique une potentialité. Vous suivez? Toute composition implique une potentialité. Donc, il n'y a aucune potentialité en lui. Il est premier. Et la puissance est toujours seconde, au point de vue de l'être. S'il n'y a aucune potentialité en lui, je rejette et je nie toutes les compositions. En rejetant toutes les compositions, qu'est-ce qu'il émerge? Il émerge quelque chose de positif qui vient de son être premier, qui est quelque chose de déterminé et de substantiel. C'est donc à partir de la négation l'émergence de l'aspect substantiel. Quel est le métaxu qui me permet de dire que Dieu est absolument simple? C'est donc l'aspect de la substance, vu au point de vue métaphysique, qui est la détermination fondamentale et première.
Pourtant, Père, vous regardez le permodum négationniste par rapport à l'acte, puisque vous niez toutes les potentialités.
Je nie. Le permodum négationniste rejette toute composition.
Mais vous les regardez par rapport à la potentialité, et quand vous passez au permodum éminentiel, vous regardez par rapport à la... Non,
la théologie part de Dieu, quand même. Et alors Dieu, il existe. Et l'être premier. Ça, c'est la foi. Et donc, la négation s'appuie tout simplement sur la primauté de Dieu qui n'implique pas de potentialité. Oui. Et là, je reste permodum negationis, je n'ai pas encore une conclusion scientifique. Et la conclusion scientifique apparaîtra à partir de ces négations pour mettre en pleine lumière dans cet être premier, cet aspect substantiel, éminent. Vous voyez ? C'est pour ça que je dis, c'est complexe. La connaissance métaphysique n'implique pas ce point de vue de négation. La métaphysique et la connaissance philosophique est plus simple que la théologie. la théologie est une connaissance de connaissance subalternée. Alors parce qu'elle est subalternée, que je n'ai pas l'évidence du sujet Dieu. Dieu est le sujet. Je n'ai pas l'évidence Dieu. Je n'ai pas l'évidence de ce qu'est Dieu. N'ayant pas l'évidence de ce qu'est Dieu, je prends la voie de négation. Je prends le bulldozer de la négation. Je rejette tout, tout. Et apparaît à ce moment-là, et c'était la réflexion du bon père Régis, canadien, aux Aulois, après avoir subi pendant un an le coup du Dédé Uno. Il dit, quelle purge! Non mais très bien ce que ça voulait dire. Le terme de négationniste était là constamment pour rejeter, rejeter, rejeter.
Session d'introduction à la théologie par le père Philippe à Rimont, le 5 octobre 1992, deuxième cours.
Pour le moment, je laisse cette première question au repos. Seconde question qui sera très rapide. Pourriez-vous expliquer ce qu'est le 7 contrat dans un article? Pourquoi saint Thomas appuie-t-il quelquefois sur l'autorité d'un philosophe? Aristote. Peut-on revenir sur les distinctions faites entre les différentes autorités? Article 8, ad secundum. Je reprends ça pour que vous soyez bien au fait. Cette doctrine argumentelle. Alors, seconde objection. Si cette science devait argumenter, ce serait ou par autorité ou par raison. Mais prouver par autorité ne semble pas convenir à sa dignité, vu que selon Boèce, l'argument d'autorité est de tout le plus infirme. Quand saint Thomas reprendra cette parole de Boèce, pour saint Thomas, en philosophie, l'argument ultime et dernier, le plus faible, c'est l'autorité. Quand vous êtes dans une discussion, saint Thomas dit ça, c'est de vous donner votre langue au chat, qui dans le cas est éminent. Vous ne pouvez plus donner d'autres arguments à l'envoi de l'autorité. C'est la dernière des raisons. Toujours se rappeler ça. Mais ce qui montre que la scolastique a perdu toute sa dignité de philosophie. Parce que c'est toujours saint Thomas. Saint Thomas qui dit ça. C'est pas de la philosophie. Quant aux preuves rationnelles, elles paraissent contraires à sa fin. puisque selon saint Grégoire, la foi n'a pas de mérite, n'a pas de mérite là où la raison procure une connaissance directe. Par conséquent, la doctrine sacrée n'use pas d'argument. Alors, réponse de saint Thomas, puisque c'est là-dessus que porte la question, l'objection, du moins l'explication. Il est certain que notre doctrine, doctrina sacra, doit user d'arguments d'autorité, et cela lui est souverainement propre. Maxime proprium.
C'est très très intéressant.
Le maxime proprium de cette doctrine, c'est d'utiliser les arguments d'autorité. Cela lui est souverainement propre. Cela tient à ce que les principes de la doctrine sacrée nous viennent de la révélation et qu'ainsi on doit accorder foi à l'autorité de ceux par qui la révélation a été faite. Mais cela ne déroge nullement à sa dignité, car si l'argument d'autorité fondé sur la raison humaine est le plus infirme, celui qui est fondé sur la révélation divine est de tout le plus efficace. Efficacissimus.
Très très efficace.
Toutefois, la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine, non point certes pour prouver la foi, ce qui serait abolir son mérite, mais pour mettre en lumière certaines autres choses qu'elle contient. Donc la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait. C'est un devoir pour la raison naturelle de servir la foi. Oui, saint Thomas est très net. Hein.
Sur d'autres révélations.
autre. Pardon. S'il en est ainsi, faites à d'autres doctrines. C'est pourquoi, écrivant à Saint Jérôme, Saint Augustin déclare, les livres de l'écriture canonique sont les seuls auxquels j'ajoute un tel honneur que je crois très fermement leur auteur incapable d'errer en ce qu'ils écrivent. Les autres, si je les lis, ce n'est point parce qu'ils ont pensé une chose ou l'ont écrite que je l'estime vrai, quelque éminent qu'il puisse être en sainteté et d'un autre. Bon. Voyez, le permodum auctoritatis constitue la science théologique subalternée. C'est parce que l'autorité intervient que la science théologique ne peut être que subalternée. Elle est subalternée à Dieu, elle n'est pas subalternée à la philosophie. C'est pour ça que l'usage de la philosophie et l'usage de la révélation est totalement différent. Quand il s'agit de la foi, l'usage de la parole de Dieu et de la révélation fonde toute la théologie. Donc c'est à la lumière de ces données de foi et de la révélation que l'argumentation théologique peut prendre naissance. Condition sine qua non, s'il n'y a pas une parole de Dieu, s'il n'y a pas la révélation, ce n'est plus la théologie. Ça va très loin comme purification, hein. Quand vous regardez certains livres modernes de théologie, évacuez, rejetez tout ce qui est considération d'ordre philosophique et d'ordre de l'opinion de l'auteur pour revenir à l'écriture. Et dites-vous, ça c'est capital, autrement, vous vous laissez vous-même séduire par une pensée qui n'est pas théologique et que vous prétendez être théologique. Ça va très loin, ça va très loin. Quand vous lisez Hans Kuhn, j'espère que vous ne lisez pas trop, n'est-ce pas ? Quand vous lisez Hans Kuhn, c'est un livre qu'il faudra lire un jour. Parce que toutes les hérésies modernes sont présentes. Alors c'est intéressant. C'est pas de faire un séminaire, toi. C'est intéressant de redécouvrir là tout. Et on découvre par en dessous Hegel. Pas toujours, parce que maintenant il critique Hegel. Donc il n'est pas. Il ne peut pas disciple d'Hegel, mais il s'en inspire beaucoup. Donc, la théologie s'appuie sur la révélation, les données de foi. Et je les reçois dans l'obscurité de la foi. Donc pas l'évidence. Mais, puisque cette révélation m'est donnée par la parole de Dieu, elle a quand même une certaine signification. Cette signification, je peux l'éclairer en me servant d'une philosophie. Et si cette philosophie, pour moi, est évidente, je peux, par le fait même, garder un point de vue de nécessité aux conclusions théologiques. Si au contraire, je me sers de ces données philosophiques d'une façon purement comme une opinion, sans en voir l'évidence, c'est de l'ordre du probable, comme toute opinion. Et je ne fais plus une œuvre théologique scientifique. Oui. Alors, l'autorité, c'est premièrement l'autorité divine. Deuxièmement, c'est l'autorité donc, de la révélation. C'est l'autorité des dogmes. vous le mettre en parallèle, c'est rien même. C'est la même autorité. Et puis vous avez l'autorité des grands théologiens. Et vous avez l'autorité des philosophes. Les grands théologiens sont des témoins du développement de la parole de Dieu. Et les philosophes vous aident à vous servir de cette philosophie, vous aident à vous servir de leur philosophie pour aller plus loin dans la connaissance de foi. Alors, quelle est la difficulté qu'il y avait le Père Motum Autoritatis ? S'il y en a encore une, vous voyez que le mode d'autorité reste toujours extrinsèque à l'aspect nécessaire de la science. Mais ici, il est intégré par la foi. Et c'est ce qui fait que c'est une science subalternée.
Mais comment se fait-il que dans cet article, saint Thomas ne parle pas de l'autorité des conciles,
etc. Oh, dans quoi, quel article ?
Dans le, il ne parle pas de l'autorité du magistère. Dans le.
Vous avez avec la révélation. Parce que le magistère, c'est la révélation.
Il parle de l'écriture canonique, là, il semble qu'il parle de l'écriture sainte uniquement.
Ah, non, c'est la révélation, il dit la révélation. Je crois qu'il le dit, tiens, explicitement révélation.
Oui.
Alors, la révélation. Que la révélation se fasse par l'Église ou par un prophète, c'est toujours la révélation. Quelle formelle ? C'est pas l'instrument qui donne la détermination. Donc, au point de vue scientifique, ça revient au même.
Je sais pas, j'ai peut-être mal lu, mais moi je vois pas. Je vois révélation, c'est aux apôtres et aux prophètes.
Ben oui.
Au moyen d'un dogme, le combattant, c'est lui. C'est vrai.
Le corps de l'article. Le 2. Je prends pas le corps d'article, on était dans la seconde.
Dans la seconde.
Il faut toutefois, la doctrine sacrée utilise aussi la raison humaine d'abord. L'argument d'autorité, et cela lui est souverainement propre. Cela tient à ce que les principes de la doctrine sacrée nous viennent de la révélation. Oui bien. C'est dit tout à fait au début, c'est ce qui me semblait. Principia uius doctrinae per revelationem abantum. Tout est là.
Parce qu'à la fin de l'article, il dit notre foi repose sur la révélation faite aux apôtres et aux prophètes.
Mais oui, mais c'est la révélation faite aux apôtres et aux prophètes, ça remplit toute la révélation. Il ne diminue pas cette affirmation que le propre de cette doctrine s'est reposé sur la révélation. Je suis en théologie scientifique, donc je prends les principes propres, pas les dispositions, pas le comment. Et, au point de vue de la foi, y a-t-il une différence pour vous d'accepter le dogme de l'Immaculée Conception ou de croire aux paroles de Jésus?
Non, il n'y a pas de différence, mais je ne vois pas que dans
donc,
cet article de saint Thomas ne m'aide pas dans ce sens-là, parce que je ne vois pas que...
Et quand il dit par révélation, est-ce que l'Immaculée Conception nous est donnée par révélation?
C'est une révélation par l'Église, mais pas par...
Que ce soit par l'Église ou par les prophètes, c'est la même chose au point de vue scientifique.
Mais c'est pas dit ici.
C'est impliqué dedans. Vous voyez, c'est des distinctions qui sont venues après saint Thomas, où certains ont dit, que, je me souviens, c'était une réaction de quelqu'un que je connaissais bien, qui m'a dit, je viens de suivre une conférence d'un père X. Distinguez bien toujours la révélation qui est faite par l'Écriture et la révélation dans l'Écriture et la révélation qui est faite par l'Église. Parce que notre foi en l'Église, une autre fois dans le Christ n'est pas la même. Cette bonne chrétienne m'a dit, à ce moment-là, quand j'ai entendu ça, j'ai pensé à Jeanne d'Arc. Et Jeanne d'Arc a dit, pour moi, c'est la même chose de croire en l'Église. Et ce que l'Église dit est le Christ. Est-ce que je peux dire ça? Elle me dit, c'est ça. Je dis, c'est bien évident. Et quand ce théologien vous dit ça, mais il se trompe. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, constamment, nous précisons les deux choses. Mais faisons attention, il ne faut pas que cette précision des dieux, des deux, supprime l'unité. Et en théologie scientifique, c'est ça qui intéresse. Oui. Donc il prend la révélation au sens très très large. Vous voyez, prenez le formel de la chose, hein. C'est l'autorité. Il y a deux types d'autorité. Il y a une autorité qui repose sur la révélation divine et une autorité qui repose sur mon évidence philosophique. Point de vue autorité de l'intelligence. Vous voyez ? Que cette autorité qui repose sur la révélation est la même, que cette révélation soit par les prophètes ou les apôtres ou par l'Église. C'est exactement la même chose. Vous voyez ? Au point de vue autorité, j'ai l'autorité qui repose sur la révélation. Et donc c'est ça qui intéresse saint Thomas, c'est distinguer l'autorité, que cette science repose sur une autorité qui se fait par le mode de la révélation. Donc il fait appel à la foi surnaturelle. C'est la foi surnaturelle qui détecte cette autorité qui repose sur la révélation. Et c'est mon intelligence humaine qui détecte une autorité qui se fait par la raison. Oui. Je crois que c'est bien ça pour saint Thomas. Parce qu'il citera les conciles constamment. Regardez dans le Tertium Pars. Il ne dit pas que c'est nouveau. Pour lui, c'est pas un quotidien. Alors, le sept contrats, c'est pour rappeler que tout repose en premier lieu sur l'autorité révélée. Et quand il n'y a pas d'autorité révélée et qu'on est en face, il prendra un argument philosophique. Sachant très bien que cet argument philosophique est tout à fait second et ne peut donner que du probable.
Pour l'exemple de Dieu est absolument simple et tout à fait simple.
Oui.
Il part pas de la révélation.
Mais oui, Dieu.
Oui, mais il n'y a pas dans la révélation que Dieu est absolument.
Mais non, mais il y a Dieu.
C'est donc suffisant. C'est pas la philosophie qui arrive.
Je vous ai dit tout à l'heure, c'est le sujet. Pour qu'il y ait connaissance scientifique, il faut que l'attribut nous soit donné par un métaxu. Tandis que le sujet, lui, nous est donné directement par la foi. L'existence du sujet. Vous voyez. Mais, qu'est-ce que c'est qu'une proposition scientifique? Il faut partir de là. Qu'est-ce que c'est qu'une proposition scientifique? Saint Thomas dit ça quand il voit les voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Il dit que la connaissance scientifique nous est donnée par mode de démonstration. Tandis que la connaissance des principes nous est donnée immédiatement par la saisie du sujet et de l'attribut. Pas besoin d'intermédiaire, pas besoin de métaxu. Tandis qu'une connaissance scientifique implique un métaxu qui nous est donné dans la démonstration. Vous voyez ? Donc, si, je prends votre réponse, si l'attribut nous était donné par la foi, il n'y aurait pas connaissance scientifique, il y aurait connaissance de foi. Si, au contraire, l'attribut nous est donné grâce à une démonstration, alors connaissance scientifique. Et c'est pour ça que j'ai pris exprès omni non simplex. Parce que quand je dis Dieu est bon, Dieu seul est bon, c'est la foi. Qu'est-ce qui serait théologique? Le summum bonum. Ça, c'est
question portait surtout sur le fait que vous disiez quand il y a l'utilisation de la philosophie, d'une autorité philosophique, la conclusion est probable.
Non, mais attention, il part du 7 contre 1. Il ne parle pas de l'utilisation de la philosophie qui vous donne une évidence. L'évidence n'est pas du probable. Vous voyez ? Or, on peut se servir d'une argumentation philosophique, on peut se servir de la philosophie qui est évidente pour le philosophe. Ce que je disais il y a un instant, si vous êtes un théologien sans avoir l'évidence de la philosophie, vous vous servez du probable. Vous voyez ? Ce qui arrive constamment, hélas, chez beaucoup de théologiens. C'est par rapport aux sept contrats qui dit ça. L'autorité du philosophe en théologie n'est que probable. Mais l'utilisation des rationes philosophiques n'enlève pas l'évidence et la nécessité. Il y a deux utilisations différentes. Si j'utilise le philosophe du côté de l'autorité, l'autorité du philosophe n'est pas une autorité absolue. Mais c'est l'utilisation de l'autorité du philosophe. Si j'utilise les rationes philosophiques, qui sont évidentes, elles ne suppriment pas l'évidence. Elles ne suppriment pas la nécessité, donc. Au-delà du probable. Vous avez tous vu ça. Mais vous avez raison. Soulevez toutes vos questions. Hein. Même si je réponds violemment, c'est pour vous mettre du courage. Alors, nouvelle question. Quel type d'assentiment donner aux explicitations rationnelles des mystères de la foi ? Très bonne question. Telle que la théologie. Alors, vous voyez, alors, arrivez à vous corriger. Je dois aussi vous corriger. Ce qu'on dit sur la théologie spéculative, c'est un mot que saint Thomas ignore. Des théologies scientifiques. Cette distinction entre théologie spéculative et pratique est du XVIIe siècle. Scolastique décadente, on la renvoie promener. Donc, dite théologie scientifique. Faut se corriger. Je l'accorde. Ici, je fais attention, je corrige exprès. Thierry Soldier, on peut très bien, on sait ce que ça veut dire. Bon. Telle que la théologie spéculative les développe à l'aide d'une philosophie réaliste. Par exemple, quand saint Thomas dit que la grâce actuelle est un auxilium et que la grâce sanctifiante est un habitus, alors, je reprends, quel type d'assentiment donner aux explicitations rationnelles des mystères de la foi? Une adhésion théologique. Vous voyez, c'est-à-dire une adhésion qui n'est plus seulement celle de la foi, mais qui implique l'usage d'une philosophie. Si mon argumentation est rigoureuse, elle implique donc un assentiment scientifique. Si mon argumentation n'est pas rigoureuse, elle demandera un assentiment probable. Oui.
Mais justement, prenons cet exemple. Par exemple, saint Thomas distinguera dans cette théologie scientifique la grâce actuelle de la grâce habituelle.
Oui.
Une telle distinction pourrait être reprise par le magistère, en l'occurrence le Concile de Trente.
Tout à fait.
Et appelée une adhésion de foi.
Tout à fait.
Mais lorsque... Alors là, ça serait un motif d'explicitation.
Mais prenez pour l'Assomption, c'est la même chose. Avant la déclaration d'Assomption, comme dogme.
Mais, donc, vous voyez, il y a certaines... Donc,
certains aboutissements qui appellent une adhésion de foi, comme
tout à fait.
Et il y en a d'autres qui ne sont pas, je pense, susceptibles d'adhésion de foi,
par exemple,
de dire que c'est un habitus antitatif ou un auxilium. Est-ce que l'Église, à la rigueur, pourrait reprendre ça pour son propre compte?
Je ne peux pas être prophète par rapport au Saint-Esprit.
Est-ce que telle confusion qui utilise des. Pas de façon péjorative, hein, les catégories aristotéliciennes est susceptible.
Ne dites pas catégorie aristotélicienne parce que ce n'est pas métaphysique. Les catégories ne sont pas au niveau métaphysique. Tout est là. On prend des rationes au niveau de la sagesse. Je ne cesse de le dire. Les catégories ne sont pas des rationnels au niveau de la sagesse. C'est une propédeutique.
Non, pardon, je voulais dire quelque chose au sens large, je veux dire.
Ah, vous voyez pas la différence. Un peu de critique. Un peu de critique. Venez. Les catégories sont au niveau de la quantité. Vous êtes d'accord?
Oui, non, mais je...
Ah, mais je réponds à votre question, voulez-vous? Parce que vous me dites que il prend des distinctions, des catégories, je dis non.
Oui, non, pardon, je
voulais... Ah bon, très bien.
Le concept, en fait, des instruments de la philosophie.
Oui, oui. Métaphysique, critique, sagesse. Hein, il ne se sert que de cela. En théologie scientifique.
Et est-ce qu'à la rigueur, est-ce que l'Église, est-ce que, je veux dire, une telle explicitation est susceptible d'une adhésion de foi?
Mais non.
Donc c'est bien ça, il faudra arriver à distinguer dans sa théologie.
Et c'est ce que je ne cesse de dire, c'est une adhésion scientifique. Or, l'adhésion de foi n'est pas scientifique.
La transubstantiation, quand on dit. Oui, mais pas. D'accord. Donc, parce que je veux dire, la distinction grâce actuelle et grâce habituelle est une distinction de théologie scientifique. Elle n'apparaît pas de façon évidente dans les Écritures.
Non.
Donc, je veux
dire, ni dans le... Il faut regarder dans la question du Concile de Trente.
Oui, donc, je veux dire, voilà, si vous voulez, le fruit d'une réflexion de théologie scientifique qui est susceptible... si je veux dire, d'une adhésion de foi... Il y aura d'autres fruits d'une réflexion que
vous ne pouvez pas le prévoir.
Non, je le prévois. Mais est-ce que, dans sa nature, c'est susceptible?
Venez, vous touchez là le problème de la puissance obédientielle. Qui, avant que ce soit actué, je ne peux rien dire. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église et qui fait passer certaines conclusions scientifiques au niveau d'un enseignement de l'Église qui réclame la foi. Moi, je ne peux pas le prévoir. Oui, c'est pour ça que je vous ai renvoyé le dernier révélé du Père Gardel qui traite toutes ces questions-là. C'est dans le dernier révélé du Père Gardel. Où le Père Gardeil montre avec beaucoup de... C'est intéressant. Vous voyez, le mot transsubstantiation qui a été au point de départ une conclusion théologique et qui est devenue un niveau de l'enseignement de l'Église au niveau de la foi dit qu'un mot, une expression qui était au niveau théologique, au niveau scientifique. Si l'Église s'en sert, ce n'est plus scientifique. Elle devient au niveau de la foi. Mais je ne peux pas savoir si telle conclusion scientifique pourra être élevée à cette dignité. Je ne peux pas le dire. Je peux dire que toute conclusion scientifique théologique pourrait être. Il n'y a pas d'impossibilité. Mais je ne peux pas dire plus. Pourrait être. possibilité. C'est dans ce sens-là que la théologie, quand elle est rigoureuse, prépare, je ne dis pas les définitions d'Église, mais pourrait préparer la définition d'Église. Ça, dans le Concile de Trente, c'est net par rapport à Thomas d'Aquin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup n'aiment plus le Concile de Trente. Parce qu'on dit, ah, c'est du Thomas d'Aquin. C'est plus du Thomas d'Aquin, c'est l'enseignement d'Église. C'est cette petite phrase que je vous disais l'autre jour, dans ce petit dialogue du Saint-Père avec Mgr Lefebvre. Quand Mgr Lefebvre a été trouvé son ami, qui était son ami pendant le Concile, le Saint-Père lui a répondu: mon cher ami, j'ai refusé plus de propositions au Concile que vous, mais j'adhère pleinement au Concile. Il avait la liberté de refuser telle proposition au Concile. C'était des propositions. Et puis une fois que le Saint-Père a considéré que ça faisait partie de l'enseignement actuel de l'Église, de l'enseignement conciliaire de l'Église, ça réclame la foi. Là, vous avez l'exemple de ce passage entre les deux. Et que Saint-Père ait dit ça lui-même, je trouve ça merveilleux. Oui. Vous voyez bien ça. Parce que ça, c'est très important. Et c'est toute la structure, vous voyez, c'est donné révélé. Tu peux regarder. Et c'est intéressant parce que, alors le Père Gardin, il pousse un tout petit peu en montrant que quand c'est une conclusion scientifique, c'est la notion propre qu'on prend en philosophie au niveau métaphysique, au niveau sagesse métaphysique. Dès que l'Église s'en sert, cette notion perd son caractère métaphysique et devient le sens commun. Et ça, c'est très joli. Transsubstantiation, avant que l'Église s'en sert, implique une notion métaphysique. Le jour où l'Église s'en sert, ce n'est plus une notion métaphysique. La notion métaphysique n'est plus impliquée dedans. Parce que c'est élevé au niveau de la foi.
Si on veut l'expliciter à quelqu'un, on revient quand même au théologien.
Si on veut
l'expliciter, il faut revenir à quand même.
Si vous voulez expliciter, vous faites œuvre de théologien et vous vous servez à ce moment-là d'une notion. Oui. La notion vulgaire, si vous voulez, n'est-ce pas, commune, contient la notion métaphysique. Mais c'est intéressant que vous n'êtes pas obligé de faire appel à ça. Vous voyez, au moment où au Concile on discutait remplacer le transsubstantiation par transsignification, transfinalité, et on disait que transsignification et transfinalité étaient quelque chose de beaucoup plus intelligible, j'ai fait exprès l'expérience. J'ai téléphoné à tel ou tel ami qui ne savait pas du tout la question de la dispute, qui était des scientifiques. Dit, est-ce que pour vous c'est plus intelligible transsignification que transsubstance? La transsubstantiation. Non. La substance pour moi, c'est très simple, c'est ce qu'il y a de fondamental. La signification, c'est un terme beaucoup plus philosophique. C'était très intéressant que Marc, comme réaction, puis j'ai téléphoné à quelqu'un, ni scientifique, ni rien du tout, pour dire, oh, bon, c'est l'enseignement de l'Église qui m'intéresse. Alors, dernière question. il y en a toute une série. Si la science théologique est subalternée à la science des saints, pourquoi est-elle soumise au jugement d'Église? C'est à cause de ça qu'elle est soumise au jugement d'Église. Si elle était purement science, ce seraient les pères d'autres théologiens qui la jugeraient. C'est ce que beaucoup de théologiens, de professeurs de théologie, disons plus exactement, c'est ce que beaucoup de professeurs d'université voudraient être jugés, non pas par les évêques, non pas par Rome, mais par leur père, par les autres professeurs de théologie. Il y a eu toute une querelle à Fribourg, au moment où il y a eu des petits drames. Alors on a remué tout ça et c'est revenu là-dessus. Et c'est invraisemblable que nous soyons jugés par les évêques, nous, professeurs de théologie, dans une université. Je vous ai déjà dit cette réflexion qu'on m'a faite quand je suis arrivé à Fribourg, comme professeur à l'université. On m'a dit, dites-vous bien maintenant que vous êtes beaucoup plus qu'un évêque. On voit très bien dans le climat protestant, professeur d'université, air professor, autorité maximum, parce qu'il n'y a pas d'évêque. Et là, c'est contaminé et ça devient ça. Alors, j'explique. L'Église a la grâce de garder le dépôt révélé. Et non pas le théologien. Et non pas l'exégète. L'Église a la grâce de garder le dépôt révélé. Et l'Église a la grâce de savoir si telle conclusion théologique est en conformité et conforme avec le donné révélé. C'est l'Église. C'est une question de foi. Et c'est pas une question de science. Si ces savants théologiens avaient été suffisamment croyants et donc suffisamment théologiens, ils sentiraient tout de suite que ce n'en va pas. Vous voyez, la conclusion en faculté de théologie, ça a été discuté au moment où tout était très secoué et où il y avait ce désir d'un syndicat des professeurs de théologie. Qu'il y aurait un syndicat des professeurs de théologie s'opposant à l'autorité du patron, c'est pas, qui serait dans le col Saint-Père et Rome. Alors on aurait le syndicat qui donnerait cette possibilité de dire quelque chose. Alors on a posé la question, un professeur a posé la question, est-ce qu'on pourrait accepter une thèse de théologie qui serait parfaite en conformité avec la méthode annoncée, bien que la conclusion soit contraire à l'enseignement actuel de l'Église. Quand on pose une question comme ça, ça prouve qu'on ne sait plus que la théologie est une science subalternée à la science des saints. Et qu'on met la théologie au niveau de toutes les autres sciences. La dignité de la théologie, c'est d'être subalterné à la connaissance des sens. Autrement, la laïcisme, c'est sa dignité, ça, c'est sa grandeur. Ce qui montre que la théologie travaille directement pour la vision béatifique. C'est ça qui est important. Elle m'oriente vers la vision béatifique. Et plus je suis théologien, plus je suis proche de la vision béatifique. Parce que la foi m'oriente vers la vision béatifique. Et que la connaissance des saints, c'est bien ça. Deuxième question. Qu'est-ce qui différencie la théologie de la gnose? Eh bien, c'est ça. La théologie comme la gnose sont des exégèses au sens étymologique. Sont des exégèses, c'est-à-dire des interprétations. L'exégèse est une interprétation. C'est une herméneutique. J'emploie expressément différents mots, puisque de fait on les emploie tout le temps l'un avec l'autre. L'herméneutique, c'est tout simplement le péri-herménéas d'Aristote. L'herméneutique, c'est quoi? C'est une interprétation. Le traité d'interprétation. Toute théologie est une interprétation. Qu'est-ce que la gnose est une interprétation? La différence, c'est que la gnose ne cherche pas le critère de vérité à partir de la foi. La gnose est simplement le développement d'une affirmation. Selon votre imagination, selon votre degré d'idéologie. Donc elle ne cherche pas la vérité au niveau de la foi. La gnose au sens propre, hein, parce que si je prends la gnose au sens étymologie, c'est une connaissance, gnosis. C'est une connaissance. Alors à ce moment-là, la théologie est une gnose. Si je prends la gnose au sens propre, qu'on a parlé des gnostiques, on a parlé de la gnose du premier siècle. Lisez le livre du Père sur la gnose et montrez que la théologie d'aujourd'hui tend vers une gnose. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherche plus d'être une théologie subalternée à la science des saints. Le jour où le théologien n'a plus aucun souci d'être une connaissance subalternée à la science des saints, très vite la théologie s'achège en gnose. Pourquoi faut-il une autorité pour lire l'écriture? Parce que c'est la foi qui repose sur la révélation. Et la révélation repose sur l'autorité de Dieu. Je continuerai ce soir. Et s'il y a des questions, vous les mettrez.